Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. C'est la correspondance de la première routarde du siècle que fut Louise Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d'Alexandra David-Mille, que nous vous lirons en deux émissions. Correspondance entretenue avec son mari, Philippe Neal, jusqu'en 1941. Épousée en 1904 et quittée en 1911, mais envers lequel elle garde une affection certaine. En témoignent les surnoms affectueux dont elle l'affuble, Mouton ou encore Mouchi. Morte à 101 ans alors qu'elle venait de refaire son passeport, cette éternelle voyageuse est une orientaliste, chanteuse d'opéra, franc-maçonne, journaliste, écrivaine et exploratrice. Elle fut en 1924 la première femme d'origine européenne à séjourner à Lhasa, au Tibet. Exploit dont la publicité fut soigneusement orchestrée et qui contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition. Nous avons choisi pour cette première émission de vous emmener dans ses bagages. Nous sommes en Inde et nous nous transportons dans l'année 1911.
Trichinopoly, 22 novembre 1911. Où est mon Inde d'antan, ardente, calcinée, avec son ciel vert terrible et ses routes où la poussière tourbillonnait en poudre d'or dans les brefs et rougeoyants crépuscules? Des nuages bas, uniformément gris, des arbres verts, des champs verts, trop verts, des routes boueuses où les roues s'enfoncent en faisant gicler une eau rouge brique et des averses qui vous transpercent. Des nuits où l'on grelotte, recroquevillé dans ses couvertures. Je suis allé ce matin à des temples situés en dehors de la ville, et au retour ai gravi les 300 marches menant au sommet du roc où trône Ganesha. Piteux tout cela. La pluie a changé la totalité des couleurs. L'Orient sans soleil n'est qu'un monceau d'immondices. Aussi, je renonce à revoir Tanjore et prends l'express de nuit ce soir pour Pondichéry. Et cela ne se fait pas sans difficulté. On doit, à cette époque touristique, retenir ses places à l'avance dans le train, surtout pour la nuit. J'envoie mon boy à 2 heures chez le chef de gare, annoncer que je compte partir par le train-poste à 7h30. J'ai peu dormi la nuit dernière. Cette gare est très bruyante et à 4h du matin est arrivé le Maharaja du Travancore qui s'est reposé un jour en allant au Durbar. Tu veux la suite du Brahman, n'est-ce pas? Voici. Un peu après son entrée dans mon compartiment, il s'est mis à causer à propos de je ne sais quelle banalité. Ah oui, le ventilateur électrique qui s'est mis soudain à tourner de lui-même. Et la conversation en venant à Rameswaram, d'où j'arrivais, aux divinités, nous sommes tombés dans la philosophie. Avec un hindou, cela en arrive toujours là et très vite. À un moment donné, au sujet d'une citation, j'ai tiré la Bhagavad Gita en sanskrit de mon sac et immédiatement j'ai conquis l'estime de mon compagnon de route. Je lui ai dit le but de mon voyage et il m'a répondu que si je voulais passer la journée du lendemain à Madurai, il ferait venir chez lui le professeur qui explique les Védas au temple et que je pourrais causer avec lui. La proposition me plaisait trop pour refuser. L'après-midi, je suis donc entrée dans cette maison de Brahman, ce qui est assez exceptionnel car leur caste leur interdit de recevoir chez eux des étrangers. Une fois de plus, j'ai posé les questions qu'agitaient Yajnavalka et Artabaya dans les siècles lointains, et mes brahmanes, qui du reste n'y ont pas plus trouvé de réponse que ces lointains ancêtres, étaient ravis par la seule sonorité des syllabes que leur race répète depuis des générations et des générations. Ravis de les entendre manier, non sans dextérité, par une occidentale. Et ils en oubliaient la réserve habituelle, répétant devant moi les mantrams sacrés, discutant sur leur sens et leurs vertus, me dévoilant les mystères du chutram interdit à tous, sauf aux brahmanes. Je savais ce que cachait ce sanctuaire, cœur du temple entouré de tant de corridors, d'autels, de divinités. Mais bien peu de non-initiés connaissent ce détail qui ne doit pas être divulgué. Le sanctuaire des sanctuaires est divisé en deux par un vaste rideau. En guise de culte, le brahman allume un morceau de camphre sur un plateau, soulève un coin du rideau et la flambée rapide projetant sa clarté derrière le voile saint n'éclaire aucune statue, aucun objet, car derrière lui, il n'y a rien. On ne doit pas le savoir, c'est là le secret, l'initiation. Elle est terriblement symbolique. Et mon hôte dit pour expliquer sa confidence « Vous êtes une adepte de Raja Yoga. Je sais que les bouddhistes comprennent cela de la même façon que nous. » De là, il a déduit que je savais et qu'il n'était pas indiscret. Il faut se secouer, le sol de l'Inde est mouvant comme certaines grèves bretonnes. On s'y enlise à chaque pas dans l'étrange et les raisons non suffisamment entraînées chavirent, s'engloutissent.
Edar Madras, 27 novembre 1911. Tu ne t'étonneras pas beaucoup en apprenant que je t'écris du quartier général de la Société théosophique. Je t'avais un peu fait prévoir que je pourrais être amené à m'y installer. Je n'ai rien trouvé de plus convenable pour dépenser peu. J'étais sûr aussi de trouver une cuisine végétarienne me convenant mieux que les viandes en conserve qui forment le fond du menu dans les hôtels de ce pays. Je suis donc venu inspecter la place hier avec Narasu. Nous avons rencontré dans les jardins des hommes et des femmes se promenant en costume d'âme, comme aurait dit Mirbeau, draperie flottante, voile blanc. Des aventures, je t'en ai promis, et j'en ai à te raconter. D'abord, j'ai été à Pondichéry. Là aussi, j'ai eu la saveur de Versailles, une ville morte qui a été quelque chose et s'en souvient, roidie dans sa dignité, propre, irréprochable, cachant sous des badigeons impeccables les lézardes des vieilles murailles. Mon hôtel, lui aussi, arborait un superbe badigeon sur sa façade, mais l'intérieur aurait eu besoin d'un sérieux coup de balai. J'ai passé la nuit dans un taudis infect, des rats parcourant la chambre qui le lendemain étaient jonchés de leurs excréments. Le temps a heureusement été très beau et j'ai pu me promener tout l'après-midi dans une sorte d'engin préhistorique sans nom poussé par quatre noirs. Le soir, j'ai eu un entretien avec un hindou. J'ai passé 2 heures très belles à remuer les antiques idées philosophiques de l'Inde avec un interlocuteur d'une rare intelligence, appartenant à cette race peu commune qui a toute ma sympathie, des mystiques raisonnables. Il pense avec tant de netteté, il y a une telle lucidité dans son raisonnement, un tel rayonnement dans son regard qu'il vous laisse l'impression d'avoir contemplé le génie de l'Inde tel qu'on le rêve après la lecture des plus hautes pages de la philosophie hindoue. Je savais que ce philosophe avait eu une attitude politique qui avait déplu aux Anglais. Mais naturellement, par discrétion, je ne lui ai pas parlé de cela. Et d'ailleurs, nous planions trop au-dessus de la politique. Cependant, tandis que nous planions, d'autres se contentaient de rester sur le sol. Ces autres étaient la police anglaise. À mon arrivée à Madras, j'étais attendu par le chef de la sûreté en personne, qui, très correct et poli du reste, me demandait ce que j'avais été faire à Pondichéry chez ce monsieur suspect. Je n'ai pas été étonné, je prévoyais que ma visite serait connue. Je ne l'avais du reste guère cachée. Ah, grand Dieu, que cela paraît mesquin et chétif, toute leur agitation, leur frousse, leur douleur. Et quelle autre atmosphère il y avait dans la maison silencieuse de Pondichéry où passait le souffle des choses éternelles, ou dans le soir paisible, près de la fenêtre ouverte sur les jardins, un peu funéraires, de cette ville déchue, nous regardions par-delà la vie et la mort. En fait de rencontre, j'ai encore à te citer celle du sannyasin. C'est une sorte d'ascète yogiste, très vénéré, devant lesquels tous les hindous s'inclinent avec révérence. Donc, ce personnage, vu de l'affluence des voyageurs, est venu demander l'hospitalité dans mon compartiment. Les employés étaient bien gênés, craignant de contrarier une lady blanche et respectant trop le saint homme pour oser lui dire d'aller ailleurs. Du reste, il voyageait en première. Nous avons été très vite bons amis. Il s'est assis dans la position de mon Bouddha du salon, sur la banquette, et nous avons conversé. Il m'a montré comment il arrivait à gonfler instantanément ses veines et à les dégonfler aussi instantanément. Il n'était pas bête, mais quel bavard!
Madras, 19 décembre 1911. Je pars demain pour une excursion à un endroit que l'on appelle les 7 pagodes et qui passe pour l'un des points les plus intéressants de l'Inde du Sud. Je fais réellement une provision de documents intéressants. Hier encore, j'étais chez des brahmanes discutant du mouvement philosophique contemporain avec le chef de la famille, un professeur distingué de philologie comparée et de sanskrit. Sa femme et ses filles sont venues me saluer. Il y avait ensuite une fête intime dans la maison. Musique. Quelle musique ! Et quels tympans doivent avoir ces gens pour la supporter ! J'ai vu là de jolies femmes avec de beaux bijoux. Cela se passait dans un milieu de brahmanes vieux style, très réactionnaire, difficile à aborder. Mais comme j'étais bien présentée par des amis, j'ai reçu le meilleur accueil. Les intérieurs de tous ces gens sont encore plus ridicules, si possible, que ceux de nos Arabes. Ils sont littéralement dénués de goût, de vrais sauvages, pendant au mur les pires chromos et en une telle profusion qu'on dirait un bazar. Tout cela très peu soigné et même sale, peut-on dire. Je compte te renvoyer, après mon second séjour dans l'Inde, une caisse contenant mes livres, des choses récoltées en route, et en général, tout ce que je n'emporterai pas plus loin. Je compte simplifier beaucoup mon bagage pour le restant du voyage. J'aurais le désir d'acquérir en Birmanie et au Japon des choses pour garnir notre intérieur un peu formé de morceaux épars et sans grand style. Nous nous faisons vieux. Il faut songer au temps où les rhumatismes nous obligeront à nous confiner chez nous. Je sais que tu n'es pas indifférent à un gentil intérieur. Quant à moi, je ne sais plus. On perd la notion des choses dans l'ambiance où je vis. Je vais un de ces jours écrire à l'hindou de Pondichéry dont je t'ai parlé et qui est un fin analyste et un cerveau porté à la critique. Je lui dirai, lui rappelant des expériences qu'il poursuit lui-même avec un souci de méticuleux contrôle, « Est-ce que j'entre en samadhi? Est-ce que vraiment je touche au nirvana ou est-ce que simplement la fatigue, l'âge émoussent mes sensations ?» Mon indifférence, ma béatitude sont-elles d'ordre transcendant ou n'y a-t-il là que torpeur, commencement du déclin? Je pense que la question le fera rire, comme il a si joliment ri le jour où je lui ai dit à propos de choses analogues. On en est alors à ne plus savoir si l'on devient si prodigieusement sage ou si l'on devient fou. Comme cela paraît loin, le monde des êtres qui s'agitent. Tous ces gens qui vivent ici, papotent, jacassent. Pourquoi ? Quelque chose est là, une sorte de voile de manteau magique qui vous enveloppe, vous isole dans ses replis, vous soulève, vous berce dans une béatitude infinie. J'imagine un peu que telle doit être la sensation dernière des sages mourants, alors que le monde leur paraît s'effacer graduellement, se reculer, sombrer dans les lointains, et que l'indifférence sereine apportée par l'affaiblissement de la vitalité organique les laisse sans désir, sans volonté pour lever même le doigt afin de rappeler les ombres qui s'évanouissent. Sagesse qui vient ou déchéance physique qui s'annonce? Nirvana ou ramollissement? Je m'arrêterai pour le moment au point d'interrogation sur cette question qui te fera rire.
Rajamundri, 30 décembre 1911. L'entête de cette lettre t'apprend que j'ai quitté Madras sous les circonstances. La lenteur des Orientaux m'ont fait demeurer bien plus que je n'aurais voulu. Je n'ai pourtant pas à regretter cette prolongation non désirée de séjour, car elle m'a fourni l'occasion de vivre une page qui demeurera sans doute unique dans mon existence, une saveur peu commune que je vais te raconter. La chose date d'avant-hier. La scène est dans le grand salon de la villa où je loge à Edar. Ils sont trois devant moi, en long cafetan, la tête enturbanée de blanches mousselines lamées d'argent. Sur la peau brune de leur front sont peintes les marques sectaires des Vishnouites. Chez l'un d'eux, la peinture a manifestement été empruntée à la substance très sacrée que les vaches émettent naturellement, les innocentes, sans se douter de la valeur religieuse des résidus de leur digestion. Leurs faces sont dures, résolues, comme avant une bataille. Et c'est pour un combat, en effet, qu'ils sont venus. Pour me proposer cette chose, peut-être jamais offerte à quelqu'un de ma race, et surtout de mon sexe, l'abandon de tout. La vie de sannyasin, depuis parmi eux jusqu'au jour où, ayant réalisé la grande réalisation, Brahman l'unique, je pourrai enseigner à l'Occident ce que nul érudit n'a su encore lui montrer, le grand Vedanta de leurs saints et de leurs philosophes. Oui, il s'agissait de jeter là mes vêtements, de vivre nu ou à peu près, sous un abri quelconque, sans meubles et sans serviteur, de devenir un yogi pratiquant suivant la formule antique et de chercher, ailleurs que dans les livres, par les initiations orales des gourous, le moksha libérateur. Doucement, j'insinuais que quelque part, sur un autre continent, vivait un monsieur, qui était mon mari, et qui, peut-être, éprouverait peu d'enthousiasme pour un tel avatar de sa femme.
Cher, je suis décidément en proie à une sérieuse crise d'intestin. Il m'aurait fallu pouvoir continuer le régime de Colombo, avoir mon cuisinier. Mais nous ne sommes plus ici en pays bouddhiste. Les gens sont catalogués par caste et astreints à des restrictions et observances sans fin. L'homme qui consent à vous nettoyer vos souliers serait à jamais déshonoré et rejeté par ses proches s'il balayait la chambre. D'autres ne peuvent pas vous servir à table et, tout au plus, veulent bien vous apporter du thé ou des fruits, mais rien de cuit. Tu vois d'ici cet agrément. J'avais cru, en quittant Ceylan, pouvoir éviter d'avoir constamment un boy et en trouver facilement là où j'en aurais besoin. Mais il est loin d'en être ainsi. J'ai rencontré par hasard à Madurai un gentil garçon de 18 ans, intelligent et débrouillard. Il est venu avec moi jusqu'à Madras, puis est rentré chez lui. Depuis, j'ai des crétins bons à rien. À Calcutta, on n'en trouve presque pas qui parlent anglais. J'en renvoie un aujourd'hui qui ne fait que dormir et se mouche dans mes torchons. La dame juive, qui du reste est protestante comme beaucoup de convertis allemands, s'est montrée très dévouée et m'a apporté plusieurs garçons qu'elle a obtenus par ses propres domestiques. Demain arrive un musulman, béni soit le prophète. Celui-là ne voit pas d'obstacle de conscience à me servir à dîner et même à cuire quelque chose en voyage. Il a servi chez des gens connus et voyagé avec des officiers. Il a l'air un peu soldat, mais il n'est pas déplaisant, quand on couche parfois dans des bungalows isolés dans la brousse, de savoir qu'on a un solide gaillard couché sous la véranda en travers de sa porte. Tu trouveras que l'homme, dans ce cas, fait un peu fonction de chien. C'est vrai, mais ils y sont habitués, surtout lorsqu'ils accompagnent des ladies et d'eux-mêmes tirent leur natte devant votre seuil. N'empêche que si j'avais prévu tant de tourments, j'aurais emmené un Cingalais connu des Ewawitarn et mettant la main à tout, comme celui que j'ai eu à Ceylan. En voilà assez sur ces questions de ménage. Hier, j'ai été au collège de sanskrit faisant partie de l'université. Cette visite a été épique. Et le principal qui me faisait les honneurs a envoyé une note aux journaux pour relater ma visite et indiquer que j'avais eu des conversations du plus haut intérêt avec les professeurs. De fait, j'ai été traitée comme une petite altesse. On s'est excusé que ma visite, faite sans prévenir, n'ait pas permis d'organiser une réception. Un poète très fameux, paraît-il, a improvisé des vers sanskrits en mon honneur. J'ai été comparée à Saraswati, la déesse du savoir, et les bénédictions ont plu sur ma tête. Le temple est l'un des plus beaux du nord de l'Inde, entouré de jolis jardins. J'ai été voir la chambre où Sri Ramakrishna a vécu, l'arbre où il a cherché l'illumination et celui où il avait coutume de s'asseoir après son illumination. Tout cela n'a rien de solennel. Les hindous ne demandent pas de décor extérieur. Il y avait là un certain nombre de pèlerins et déjà des gens qui me connaissent, quelques-uns m'ayant vu au mat, d'autres au Sanskrit College, d'autres ayant entendu dire qu'une dame, qui, que, etc. Je reçois un très sympathique accueil partout. ceux qui prétendent que les hindous sont systématiquement hostiles au bouddhisme commettent une erreur. Un orateur éloquent reconvertirait une grande partie de l'Inde en ce moment, j'en suis certaine. Parce que je suis bouddhiste, les gens se montrent très différents avec moi de ce qu'ils sont avec les chrétiens. Sur le ponton, en attendant le passage du steamer qui doit me ramener à Calcutta et que j'ai été rejoindre dans ma petite embarcation, deux gentlemen m'abordent. Eux aussi m'ont vu quelque part et ce sont de nouveau les habituels remerciements que je reçois de toutes parts pour m'intéresser à leur doctrine. Puis on désire que je parle du bouddhisme. La foule est compacte sur l'étroit ponton, les gens font cercle, s'entassent, et je parle. Curieuse race, où le mysticisme prime tout, toujours avide d'entendre parler des dieux, des héros religieux, et de cela qui, pour eux tous, est le suprême but, moksha nirvana. Le soleil se couche tout rouge dans les nuages, le Gange coule, gris bleuté à reflets de cuivre sous nos pieds.
Calcutta, 16 janvier. Avant-hier, lundi 15, j'ai été voir la veuve de l'homme divinisé, Sri Ramakrishna Paramahansa, dont j'avais visité la chambre au temple de Dakshineswar et la chapelle de Bellure. Se trouver en face de la femme d'un dieu, il n'y a qu'en Inde où de pareilles choses arrivent et sont considérées comme tout à fait naturelles. J'ai été voir la dame américaine qui dirige l'école des veuves hindoues. Je t'ai dit, je crois qu'il y a ici des veuves de 5 ans, car on marie les enfants au berceau, et le mariage doit devenir effectif dans la semaine qui suit la première menstruation de la fillette. L'opinion commence à s'agiter pour la suppression de cette horreur. Pour en revenir aux veuves dont beaucoup sont vierges, elles ne peuvent pas se remarier et un grand nombre tombent dans la misère ou se livrent à la prostitution. L'école en question est une de celles, parmi d'autres, où on apprend un métier aux jeunes veuves pour qu'elles puissent gagner leur vie. J'ai également assisté à un service de l'une des branches du Brajmo Samaj. C'est tout à fait un temple et j'ai, en y entrant, éprouvé l'impression de satisfaction et de confortable que donne un terrain connu. Le ministre, lui aussi, sent terriblement le clergyman. Trop, beaucoup trop, en ces pays de dieux exubérants. Il n'est pas orateur et s'éternise en des prières qui lassent l'attention des assistants. Je regarde les têtes dans le public. Il y en a de très intelligentes. Ceux qui sont ici appartiennent à l'élite libérale de la nation. Cela ne les empêche pas d'être vêtus pour la plupart de façon peu soignée. Un occidental non au courant se croirait volontiers parmi des pauvres. Devant moi, un homme drapé de lainage orange s'absorbe dans ses dévotions. Il est très blanc de peau, très noir de cheveux et de barbe, avec des cils qui lui tombent jusqu'au milieu des joues. Il est très beau, très artistique, et vraiment impressionnant dans son ravissement mystique. Je le regarde avec joie comme un régal d'art. Et puis voici que ma belle statue sort de ses rêves et se mouche dans ses somptueuses draperies oranges. Oh, désespoir! Thank you.
Calcutta, 12 février 1912. Je rentre d'un lunch chez Mrs. Homewood, dont j'étais déjà parlé, et qui est, elle aussi, la femme d'un juge à la High Court, cour de cassation. Ils sont tous deux d'une obligeance inlassable. Grâce à eux, 1000 portes se sont ouvertes pour moi, ici, et ils songent à me préparer d'eux-mêmes les voies dans le Sikkim, en faisant mettre à ma disposition celui qu'ils appellent le superintendant des Tibétains, c'est-à-dire une sorte de contrôleur civil, dirait-on chez nous, de la colonie tibétaine au Sikkim. Le vice-roi m'a aussi fait demander quelles introductions je souhaitais pour mon voyage dans l'Inde du Nord. Tout paraît devoir s'arranger à merveille, et je pense que j'aurai un voyage extrêmement intéressant dans cette région himalayenne de la frontière du Tibet. Franchirai-je cette frontière ? Si les bandes chinoises ne battaient pas le pays, je n'y aurais pas manqué en me joignant, avec l'appui du Raja local, à quelques caravanes de riches pèlerins pourvus de matériel de campement suffisamment confortable. Tu ne peux te faire une idée du prestige dont un bouddhiste européen jouit en pays bouddhiste d'Asie. Après tout, Lhasa n'est qu'à 500 km de Darjeeling. Je sais bien que quand il faut les manger avec des chevaux et des palanquins et à travers la montagne, bien que la grande route soit entretenue et aussi bonne que nos pistes de second ordre, cela demande pas mal de temps. Enfin, la tentation me sera épargnée. Les Tibétains, sujets britanniques, n'ayant pas permission d'aller actuellement à Lhasa, et moi-même, peut-être, ne pouvant sans doute pas l'obtenir davantage.
Calcutta, 14 mars 1912. Je sors d'une afternoon chez les Woodruff. Toujours les mêmes femmes en mousseline d'or, moins dorées pourtant que lorsqu'elles sont en visite chez les hindous. Thé par petite table au jardin, puis musique au salon. Et quelle musique! Ah, mon petit mouton! Les tout-cerveaux comme moi, ainsi que tu dis, s'usent autant les nerfs en leurs orgies que les tout autre chose. Sur un tapis accroupi, un artiste indigène joue de la vina et chante. Un grand artiste, rien de ce que le commun des touristes entend de par la ville, et bien que le cadre ne ressemble en rien au salon familial et ancestral des Tagore, c'est du rêve qui s'échappe de l'antique instrument. Qu'est-ce qu'il joue, ce barde ? Qu'est-ce qu'il chante ? Je ne sais, peut-être des poèmes d'amour, mais toute la mélancolie de l'existence s'épand autour de lui. Toute la vanité des joies et des douleurs s'affirme dans cette musique un peu sourde, cette psalmodie douce et berceuse. C'est cette même vina, ce sont les mélodies analogues qui résonnèrent aux oreilles du Bouddha dans l'appartement des femmes, tandis que sa pensée s'échappait au loin, portée sur les ailes de cette musique magique. Toutes les scènes du merveilleux poème « Le Lalita Vistara » me reviennent en mémoire, et je les sais presque par cœur, ces chapitres décrivant les dernières nuits de fêtes précédant le grand départ. Mais oui, comme nous le disons souvent, la Bible se comprend chez nous, dans notre Orient désertique, et de même le Bouddha et les rishis des Upanishads se comprennent ici. La vérité vécue du poème éclate. C'est vrai que toutes ces exhortations montent avec l'air mélancolique, navré et infiniment paisible et détaché, qu'elles emplissent ce salon et que les femmes en mousseline d'or se muent en cadavres, ainsi qu'elles apparurent au Bouddha et que l'on sent en soi quelque chose qui s'en va vers l'emblématique robe couleur d'aurore des sannyasines, et un frisson fait de sentiments complexes, désirs, appréhensions me traverse en songeant aux miennes qui vont m'envelopper pour tout ce voyage au pays des Devas. La scène change. Le directeur du conservatoire, un Français, M. Philippe Sandré, va jouer du violon. Mrs. Woodruff étant au piano, un morceau de Wieniawski, puis une sonate de Grieg. Le morceau terminé, Les ranis et les non-ranis commencent à prendre congé. Le défilé chatoyant remplit le salon d'une vague mouvante de nuances douces qui se régaient ailleurs, mais rien n'est gai dans l'Inde. Mrs. Woodruff me dit « Restez donc, l'artiste Alavina va revenir. » Si je reste. Il n'y a qu'une vingtaine de femmes dans le salon. Je suis assise à côté de la poétesse Bengali, dont je t'ai déjà parlé. La musique hallucinée recommence. Bien menue après Grieg, bien chétive, semble-t-il. Et peu à peu, cependant, les nerfs se remettent à son diapason. Elle va, elle coule, imperturbable, sans éclat, comme sûre de son triomphe. C'est presque un malaise, cette musique-là, après l'autre, cet Orient désabusé après le paroxysme d'agitation de l'Occident. Les voix chuchotent, ironiques, irritantes. Choisis donc la voix. Et qui donc, à travers cette variation de l'artiste, où le tintement métallique des cordes sonne strident, à ricaner. Toutes les voix sont vaines et folles. L'homme est une bulle à la surface de l'océan, une bulle qui pense et qui a, mesquine, l'orgueil de ses pensées. On a les jambes un peu molles, les reins un peu brisés. Il faut aller faire un tour au grand air, bien brûlant le grand air, avant de rentrer dîner.
Un siècle auparavant, Alexandra David-Neal, en voyageant de l'Inde au Tibet, bravait tous les clichés concernant la condition féminine. Sa solide formation intellectuelle, son adhésion sincère au bouddhisme, son caractère trempé lui permettent de croiser hommes et idées sans se départir d'un solide bon sens et de beaucoup d'humour. Cette orientaliste laisse à travers sa correspondance un portrait de femme savoureux et une ethnologue avertie. Nous la rejoindrons au Tibet la semaine prochaine. Cette émission a été préparée et lue par Anne et Marie. La technique était assurée par Vincent et Claude Michel. Les musiques qui ont accompagné notre voyage étaient extraites d'un album de musique d'Inde du Nord, de Sheila Dar, intitulé « Voyage intérieur », ainsi que des musiques d'inspiration hindouiste de Titi Robin.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez